cette seconde partie de notre invité du lundi, vous avez réuni Simon Leys, plusieurs sinologues. Tout d'abord Marie-Claire Bergère, professeure à l'Institut national des langues et civilisations orientales, auteur d'un ouvrage sur la Révolution de 1911, publié chez Mouton. Lucien Bianco, professeur en histoire contemporaine de la Chine, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et auteur, entre autres, d'un livre important intitulé « Les origines de la Révolution chinoise » publié chez Gallimard. Siwi Tarai, auteur d'un livre sur les sans-fleurs publié chez Flammarion et collaborateur de la Quinzaine littéraire. Enfin, Jean-Philippe Béja, chercheur en politique extérieure chinoise qui rentre de Chine où il a séjourné depuis plus d'un an. Simon Leys, tout à l'heure nous évoquions avec vous le passé lointain de la Chine et plus précisément l'histoire selon ce matienne. Mais l'histoire, elle est là aujourd'hui, elle est présente avec la réhabilitation possible de Deng Xiaoping.
Pour ce retour de Deng Xiaoping, il faut d'abord se rappeler ce qu'a signifié sa première réhabilitation effectuée par Zhou Enlai. Ce à quoi Zhou Enlai s'était employé durant toutes les dernières années de sa vie, c'était en fait à reconstruire une digue militaro-bureaucratique contre le possible retour de la vague maoïste d'une éventuelle révolution culturelle. Zhou Enlai s'était donc employé à restaurer, à réhabiliter tout l'ancien appareil bureaucratique. Cette entreprise avait été menée à bien et avait largement réussi au niveau provincial. Et la réhabilitation de Deng Xiaoping a marqué vraiment son sommet, son point culminant. Cette première réhabilitation de Deng Xiaoping signifiait en fait le désaveu de la révolution culturelle et la fin de l'ère maoïste. Il faut se rappeler en effet que représente Deng Xiaoping. Deng Xiaoping représente tout ce contre quoi le maoïsme s'est insurgé et a combattu. La révolution culturelle était dirigée contre Liu Deng, Liu Shaoqi et Deng Xiaoping. Si Zhou Enlai n'a pas réinstallé Liu Shaoqi, c'est simplement pour la seule raison que Liu Shaoqi était déjà mort. Faute de Liu Shaoqi, on se contente de Deng Xiaoping, ce qui n'est d'ailleurs pas peu de choses, étant donné l'envergure et la carrière du personnage. Deng Xiaoping, durant la révolution culturelle, nous savons par les gardes rouges qui ont diffusé un bon nombre de citations de Deng Xiaoping. Nous savons donc ce que Deng Xiaoping représente. Ces citations étaient supposées à l'époque créer l'indignation populaire au sujet de Deng Xiaoping. Je pourrais par exemple vous en citer l'une ou l'autre. Voici ce qui, vous voyez donc sur les actes d'accusation contre Deng Xiaoping. Deng Xiaoping s'était permis de dire « Les gens sont mal habillés et mal nourris. Nous avons tenu trop de discours creux. La situation économique est désastreuse. Tout système qui pourrait amener les paysans à produire plus, qu'il soit collectif ou individuel, doit être encouragé. Peu importe que le chat soit noir ou qu'il soit blanc, il suffit qu'il attrape les souris. » Plus bon nombre de citations dirigées contre Mao Zedong. « On ne peut pas dire que la dénonciation de Staline ait été une erreur. Nous devons lutter contre le culte de la personnalité. Notre unique chef est le parti lui-même. La direction devrait être collective. Le pouvoir de prendre les décisions ne devrait pas être abandonné à un individu. On ne peut quand même pas forcer les gens à lire du Mao Zedong à longueur d'année, c'est les faire périr d'ennui. » Et alors aussi, ces citations sur la primauté de l'expert sur le rouge, le principal devoir des étudiants est de bien apprendre leur discipline spécifique, etc., etc.
Et pourtant, Deng Xiaoping revient maintenant apparemment au pouvoir.
Et précisément, tous ces propos qui étaient censés créer l'indignation à l'égard de Deng Xiaoping sont ceux sur lesquels s'est fondée son immense popularité. Et donc, sa réhabilitation a été bien accueillie et par l'appareil bureaucratique et par la population qui, pour une fois, se trouvait unie sur un point précis, se trouvait unie par leur commune crainte à l'égard d'un retour offensif du maoïsme. Ça, c'était la première réhabilitation. Inutile de dire que pour le dernier carré de la révolution culturelle, les derniers survivants du leadership de la révolution culturelle, ce leadership qui avait été érodé au cours des années grâce à l'opération de restauration de Zhou Enlai, ce qui restait, ce dernier carré, c'était Madame Mao et ses amis qui survivaient grâce à la protection personnelle de Mao Zedong. Ce dernier carré voyait évidemment avec angoisse sa base et son pouvoir de plus en plus rongé et diminué, a lancé une offensive désespérée pour tâcher de renverser la politique de Zhou Enlai, pour tâcher de condamner cette politique de restauration. Et alors, on a vu toute une série de campagnes, dont la plus spectaculaire a été la fameuse campagne contre Confucius, qui était en fait une campagne anti-Zhou Enlai, une campagne dirigée contre la politique de restauration. Zhou Enlai, vieux routier de la politique, renard expérimenté, a réussi à esquiver et désamorcer ses campagnes successives. Mais il est mort trop tôt, et à la faveur de sa mort, il était possible pour le groupe de Tianqing de lancer leur dernière offensive et de réussir cette fois à désarçonner Deng Xiaoping. Mais c'était une victoire très illusoire, comme on l'a vu, puisque le seul capital politique du dernier carré de la révolution culturelle était la protection de Mao, et Mao, une fois mort, privé de tout soutien, il a été aisé de les liquider. Et dès lors, la voie était ouverte pour reprendre cette ancienne politique de Zhou Enlai, qui avait déjà largement abouti et largement réussi à remettre en place toute l'ancienne infrastructure pré-révolution culturelle. Et dans cette perspective-là, il était tout à fait logique et normal de voir maintenant l'amorce d'un retour de Deng Xiaoping. Ce que nous voyons en fait, c'est la fin de l'ère maoïste, le désaveu de la révolution culturelle et le retour au révisionnisme de la pré-révolution culturelle.
Au-delà de ces péripéties et de cette crise de succession, je crois que si aujourd'hui on souhaite comprendre la révolution chinoise, il est un texte qu'il faut absolument lire. Ce texte s'appelle « Chinois, si vous saviez ». Il a été écrit par un groupe de gens. Ce groupe s'appelle Li Yizhe. Et je voudrais savoir pourquoi vous, sinologue, vous attachez tant d'importance à ce texte.
Je crois effectivement que c'est extrêmement important que finalement tout ce que nous disons, tout ce dont nous discutons, que nous écrivons, a peu d'importance et devrait être seulement un point de départ pour les lecteurs, pour attirer leur attention sur les voix chinoises. Ce sont les voix chinoises qu'il faut écouter en tout premier lieu. Et parmi ces voix chinoises, celle qui s'est exprimée de la façon la plus lucide, la plus complète et la plus percutante est, je pense, ce document de Li Yizhe, qui n'est pas entièrement isolé parce que d'autres l'ont précédé, mais celui-ci, Li Yizhe, apparaît jusqu'à présent, il me semble, comme un point culminant, un sommet dans cette expression d'une critique contestataire de gauche du régime maoïste.
Mais en fait, Li Yizhe n'est pas un personnage, il est...
Li Yizhe, c'est essentiellement trois personnes dont les noms ont été confondus en un pseudonyme. Le principal rédacteur du manifeste étant Li Zhengtian et deux autres camarades. Des jeunes gens qui avaient fait la révolution culturelle, qui avaient été à la pointe du mouvement de l'extrême gauche de la révolution culturelle, qui ont été ensuite victimes de la répression fasciste militaire de Lin Biao, qui se sont retrouvés en prison, et puis qui, après un séjour en prison, ont été relâchés et n'ont pas reçu d'affectation de travail, et ont pu donc se consacrer entièrement à la réflexion politique. Ils ont mis leur loisir forcé à bien à profit, comme on peut voir par la lecture du manifeste. Et ils ont réussi à profiter des fissures qui s'étaient créées dans l'appareil par les luttes pour le pouvoir au sommet pour lancer, pour placarder sur les murs de Canton, à la fin de novembre 1974, leur manifeste donc, sur l'égalité et la démocratie en régime socialiste.
Monsieur Bianco, si le nom justement de Li Zhengtian apparaît comme étant le dernier mot de votre livre collectif sur Regrafois sur la Chine, je suppose que ce n'est pas un hasard non plus.
Oui, moi aussi j'avais été extraordinairement frappé par le courage et l'originalité de Li Zhengtian et des autres qui ont signé avec lui les Dazhebao, les journaux muraux de Li Yizhe. Je crois que c'était quelque chose de très nouveau et que rien effectivement d'aussi important dans ce domaine de la protestation, de l'expression d'une divergence par rapport au thème officiel. On n'avait pas entendu ça en Chine depuis longtemps, depuis de nombreuses années. D'autres indices plus récents, comme la fameuse manifestation sur la place Tiananmen du début avril, du 5 avril, et puis plus récemment même, dans Le Genmin Jeupao lui-même, donc cette fois avec une sanction officielle, le 5 décembre, on voit publier des critiques sur le régime, qui sont évidemment infiniment moins percutantes, infiniment plus dans la ligne que celle de Li Yizhe, mais tout de même, cela peut nous laisser penser que ça bouge enfin. Simplement, une fois mis en relief le caractère, je crois, à la fois prémonitoire du Dajibao de Li Yizhe, et je crois qu'il faut tout de même ne pas peut-être exagérer ces indices. Le régime chinois n'a pas changé fondamentalement parce que quelques voix isolées ont pu commencer à s'exprimer. Et l'ont fait, et c'est pas indifférent que ce soit des gens qui avaient été à la pointe du combat maoïste, au fond, pendant la révolution culturelle, avant d'avoir été mis en prison très vite par les gens qui étaient alliés de Mao Tse-tung à l'époque. Mais je crois que il ne faut pas s'imaginer que maintenant que, disons, la bande des quatre et ceux qui bloquaient toute évolution démocratique, maintenant qu'il y a un début de libéralisation dans le domaine culturel, qu'on recommence à voir des films des opéras datant d'avant la révolution culturelle à Pékin, et que les gens s'y précipitent, et que quand on leur demande, on leur présente successivement plusieurs versions, une datant d'avant la révolution culturelle, une d'après la révolution culturelle, d'une pièce par exemple, et on leur demande le lendemain ce qu'ils en pensent, et unanimement, dans le débat qui suit, les gens disent avant la révolution culturelle, ça leur paraît plus riche. Donc, tout cela, c'est autant de signes, mais je crois qu'il ne faudrait pas s'imaginer qu'on a dès maintenant une possibilité d'ouverture démocratique. J'imagine plutôt que c'est comme les tout premiers dissidents qu'on a pu entendre en URSS il y a très longtemps. On n'en est pas du tout encore, non pas même bien sûr à la démocratie, non pas à la démocratie, mais pas même à l'époque des Solzhenitsyn, des Sakharov ou des Amalric.
Marie-Claire Berger, c'est votre avis?
Je voudrais revenir un peu sur le point de cette contestation. Elle est évidemment très importante, mais je la trouve personnellement ambiguë et en tout cas difficile à interpréter. C'est une contestation. Elle s'est exprimée dans le cadre officiel, à la faveur, vous l'avez dit, des disputes au sein de l'appareil même du parti. Elle prend donc la forme d'une attaque contre l'IMPIA, au moment où l'IMPIA a été discréditée. Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle représente un prolongement de l'action engagée pendant la révolution culturelle, c'est-à-dire une critique de gauche du régime, une critique qui remet en question l'existence même de ces structures, qui a un aspect anarchiste, un retour à la base, une critique par les masses de l'appareil, par certains aspects, oui. Mais d'autre part, il y a aussi, et c'est peut-être ce à quoi nous sommes peut-être davantage sensibles en Occident, cette espèce d'appel à la démocratie et cette ouverture libérale. Il dit la démocratie, après tout, n'est pas le monopole des réactionnaires. Être démocrate, ce n'est pas être réactionnaire. Et il y a cet appel à la démocratie. Donc les deux courants sont présents simultanément. L'un n'est peut-être que la façade de l'autre. Mais je trouve personnellement difficile de définir exactement ce que représente cette contestation.
Je pense effectivement qu'il y a eu... le texte est très ambigu, comme vous le dites, parce qu'il n'était pas ambigu, il n'aurait pas pu paraître, il n'aurait pas pu exister. L'ambiguïté était sa condition même d'existence et de publication. Je pense aussi qu'il peut y avoir eu manipulation à un certain degré, et certainement une volonté délibérée chez les auteurs du manifeste de faire croire à une manipulation pour se protéger eux-mêmes. La manipulation, objectivement, a même peut-être pu exister. Rappelez-vous, pour prendre un autre exemple illustre qui est peut-être similaire, l'espèce de manipulation mutuelle qui a eu lieu entre Khrouchtchev et Solzhenitsyn au moment de l'apparition d'un jour dans la vie d'Ivan Denisovitch. Solzhenitsyn n'est pas un complice de Khrouchtchev, ni vice-versa, mais il y a eu objectivement, à un certain moment, à un court moment, un intérêt mutuel de part et d'autre à faire utilisation de l'autre. Et le même phénomène a pu jouer dans le cas de Li Yizhe. Maintenant, en ce qui constitue les objectifs du manifeste, ils me semblent extrêmement clairs et limpides et éclatants. Ils sont compris et inclus dans le titre même. C'est un manifeste en faveur précisément de la légalité et de la démocratie. Ce que les auteurs du manifeste demandent et exigent, c'est que la liberté d'opinion, la liberté de critique soit garantie et protégée par la loi et par la Constitution. C'est le point central du manifeste et je crois que c'est absolument capital. Ça, c'est l'aspect positif du manifeste. Ce qu'il demande, c'est que la liberté de critique et d'opinion soit garantie par la loi. Et en plus, sur le plan négatif, alors il s'applique à faire une analyse critique du système.
Jean-Philippe Béja.
À propos de ce que vous disiez, Marie-Claire Bergère, sur la démocratie et la légalité, finalement, pourquoi est-ce que la démocratie serait une idée de droite? Vous dites il y a des aspects anarchisants dans le manifeste de Liège, et d'autre part, il y a une demande de démocratie. Mais je crois que ce n'est pas contradictoire, au contraire, c'est même complémentaire. Enfin, il y a tout un aspect libertaire chez Liège, qui, bien entendu, réclame plus de démocratie. La démocratie, c'est pas nécessairement la démocratie bourgeoise, et il l'explique très bien lorsqu'il dit il y aura deux tendances ou trois tendances, mais une tendance ne doit pas écraser l'autre tendance. Pour avoir une démocratie révolutionnaire, il faut que les deux tendances ou les trois tendances aient la même possibilité de s'exprimer. Et je pense qu'à ce moment-là, démocratie n'est pas contraire à marxisme libertaire et à contestation de gauche.
Lucien Biancourt, j'aimerais qu'on revienne à ce que vous disiez tout à l'heure au début, c'est-à-dire à la citation que vous faisiez du Genin Jebao, c'est-à-dire le quotidien du peuple, et à donc cette possibilité d'espoir, semble-t-il, qu'il existe peut-être maintenant, après la mort de Zhou Enlai, la mort de Mao et l'écartement des quatre.
Je crois que justement, enfin, il ne faut pas se faire trop d'illusions, enfin, exagérer l'espoir. Ce sont des signes extrêmement ténus de tout petits indices qu'on a. De même que la parution de ce genre de texte dans le Genmin Zhebao, qui aurait été évidemment impensable avant, mais enfin, je répète, c'est un Dazhebao infiniment plus court, moins substantiel, moins virulent, moins percutant que celui de Li Yizhe. On a également, par exemple, maintenant, des expositions sur l'existence de Mao, avec un livre d'or qui est à la disposition, enfin, non seulement à la disposition des visiteurs, mais ils sont vraiment fortement incités à donner leurs impressions, et parmi, évidemment, des flots d'éloges habituels et de bonnes résolutions, on voit assez souvent à Caen une exposition similaire pour le camarade Zhou Enlai. On a donc et cela aussi, cela est déjà encouragé par une partie des certains éléments de la bureaucratie. C'est là quelquefois, semble-t-il, je ne peux pas donner de, je ne le sais pas précisément pour ce détail-là, mais arrive à être formulé jusque dans la presse où il y a, et ça n'est pas encore des critiques voilées de Mao Tse-tung, mais enfin ça pourrait être le tout début d'amorce d'une démaoïsation. Mais je crois que en même temps, il me semble que les Chinois, dans leur joie, semble-t-il, leur libération, l'explosion de contentement d'être débarrassé des quatre, peut-être les malheureux se font-ils déjà des illusions, peut-être le retour de bâton va arriver. Ça n'est pas du tout, donc, Jean-Philippe Béja se plaçait sur le terrain de où on met la démocratie, valeur de droite ou de gauche. Moi, je voudrais sans du tout me préoccuper de jugement de valeur, de ce qu'elle est, de même pour les valeurs libertaires, l'anarchisme, de voir ce qui est possible ou vraisemblable en Chine aujourd'hui, et de ce point de vue-là, je crois très très peu réaliste de s'imaginer qu'une évolution démocratique accentuée, telle qu'on pourrait l'imaginer naïvement ici, soit vraiment prévisible dans un avenir assez rapproché.
Aux problèmes économiques et démographiques, la Chine en 1977, c'est avant tout probablement 900 millions de Chinois et un pays en voie de développement.
vous venez de rappeler les facteurs qui pèsent le plus sur toute évolution qu'on peut tenter d'imaginer, c'est-à-dire la pression démographique et le fait que du point de vue économique, la Chine reste un pays sous-développé et que donc, libéré de Mao, je continue à penser que cela a été accueilli et dans le peuple et chez les bureaucrates avec soulagement, la mort enfin arrivée de Mao, qui était un obstacle à une adaptation indispensable depuis longtemps de la société post-révolutionnaire, on peut penser que le plus probable est peut-être que cette fois, le développement économique va devenir la tâche prioritaire, avec toutes les conséquences que cela implique, développement des inégalités sociales, privilèges accordés aux techniciens et aux experts, recours aux stimulants matériels, aux importations de technologies venues de l'étranger, etc. C'est peut-être ce qu'on peut attendre et qui, évidemment, nous amène très, très loin des espoirs maoïstes, de ce qui a été tellement en vogue ici en France.
Et de l'idée même de révolution.
Oui, enfin, l'idée même de révolution, oui. C'est-à-dire que c'est même cela est pas sûr. À la limite, je serais encore, enfin, bien plus pessimiste. Je pense que les possibilités de retour de révolution par en haut, car après tout, la révolution culturelle, comme les purges staliniennes à la terreur stalinienne des années 30, c'était une révolution par en haut, une pure de l'appareil bureaucratique du parti, réussi en Chine, en Russie, mais avec la terreur, et qui a échoué en Chine, mais sans le même recours à la terreur, c'était donc une révolution par en haut. Je la crois. Elle a beaucoup plus de chances de se reproduire, bon, au fond, ce que d'autres appelleraient le maintien de la ferveur ou d'une révolution permanente, s'il y a échec dans la course de vitesse entre développement économique et emballement démographique. Et je crois que le fait que, finalement, l'héritage était tellement différent que les conditions objectives que les communistes chinois ont rencontrées en arrivant au pouvoir étaient tellement plus contraignantes que celles que les bolcheviks ont trouvées dans la Russie, qui pourtant passait pour attarder et était attardée en 17, font que cette évolution elle-même est moins probable, elle a moins de chances de se réaliser qu'en Russie.
Marie-Claire Bergère, libérée de Mao.
Je ne sais pas, c'est possible. Les solutions possibles sont très nombreuses, il est difficile de se prononcer, mais d'un point de vue plus fondamental, le possible est très limité et la marge d'action est très étroite. La marge de manœuvre, la liberté de manœuvre est très étroite à cause justement des impératifs que vous nommiez, l'impératif de la démographie. Il faut arriver à contrôler l'explosion démographique si on veut arriver à assurer le décollement économique, et d'autre part le décollement économique n'est pas encore assuré. La Chine est encore un pays sous-développé qui n'a toujours pas décollé, qui est en train de décoller mais qui ne l'a pas fait. Les problèmes de l'agriculture semblent en voie de solution, mais seulement en voie de solution. Avec 250 ou 270 millions de tonnes, la Chine assure juste ses besoins
en céréales.
Il y a là une marge de manœuvre qui est très étroite. Quel que soit le régime, quels que soient les dirigeants, ils auront à faire face à ces deux impératifs et à adopter des solutions qui auront au moins un certain nombre d'éléments communs, la priorité à l'agriculture par exemple. Ceci dit, le vraisemblable, si l'on peut se prononcer sur le vraisemblable, ou une des solutions possibles, et qui rend justement assez angoissant cette joie manifestée le 24 octobre sur Tiananmen, c'est qu'on retournera à un système de gestion extrêmement proche du système soviétique, proche de ce qui existait en Chine avant 57. Ceux dont justement voulaient se libérer, les étudiants des sans-fleurs, ceux qui protestaient en 56-57 contre le régime en place. Et il me semble qu'il y a de grandes chances qu'avec le triomphe de la bureaucratie, le triomphe des chefs de l'armée, que représente au fond l'arrivée de Hua Guofeng au pouvoir en septembre et octobre, on retourne vers cette sorte de régime. Donc je trouve le mot libération, je trouve la joie qui a été exprimée, un peu angoissante pour les gens qui observent cela de l'extérieur. Et pour en revenir à une question que nous avions évoquée tout à l'heure, quelles seraient dans le cadre de ce régime les possibilités de libéralisation comme il en a existé, comme il s'en est développé en URSS, quel pourrait être le rôle d'une intelligentsia libérale qui est censée incarner ici à nos yeux plus ou moins Li Jie. Je serais peut-être plus réservée que vous ne l'avez été, et pour des raisons de société et de culture. Il me semble que l'intelligentsia chinoise présente des ressemblances, mais aussi de profondes différences avec l'intelligentsia russe. Il existe évidemment ce courant contestataire, épris de liberté et de démocratie, qui s'est exprimé au moment de mai 19, du 4 mai 1919, qui s'est exprimé à Yan'an, qui s'est exprimé avec Lu Xun, qui s'est réexprimé à nouveau pendant les Sans-Fleurs. Ce courant existe. Mais il existe aussi une tradition, et je me demande si elle n'est pas plus puissante, plus enracinée, d'intellectuels inféodés aux structures de l'État, de lettrés qui est partie prenante du pouvoir en place et qui aspire à exercer une part de ce pouvoir en le contrôlant, en le critiquant, mais qui agit par référence à ce pouvoir et plus ou moins à l'intérieur de ce pouvoir, même s'il prend parfois ses distances, c'est en tant que critique, mais critique partie prenante en même temps.
Simon Leys, vous qui êtes une sorte de lettré.
Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que vient de dire Madame Bergère. Oui, effectivement, je pense que une erreur qui n'est pas celle qu'a commise, certainement Madame Bergère n'a pas commis cette erreur, mais une erreur qui est parfois commise en Occident est de penser ou de dire que la Chine n'a pas une tradition de contestation intellectuelle, ce qui n'est pas vrai. Mais il est vrai, comme dit Madame Bergère, que cette critique se fait dans le cadre d'une acceptation fondamentale des prémices et des principes de base du gouvernement qui existent. Mais enfin, l'idéal des lettrés, celui qui était illustré, disons, dès le XIe siècle par un homme comme Fan Zhongyan, avec sa devise « plutôt mourir en criant que survivre en silence », et qui était considéré toujours par les lettrés comme un homme dans la plus grande tradition de ce que doivent être les lettrés. Et ça remonte beaucoup plus haut. Nous parlions de Sima Qian. Nous sommes maintenant à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, où la même vérité est affirmée. Plutôt le non-non d'un honnête homme que les oui-oui de la masse. Vous pouvez remonter plus haut encore, même jusqu'à Confucius, dans l'idéal, lorsqu'on lui prête, ce qu'on lui attribue, le fait qu'il aurait été l'auteur de l'histoire, le Chuanqiu, qui en fait était une critique du gouvernement. Il y a là une notion fondamentale dans la classe lettrée chinoise, que la fonction du lettré est d'être le critique du pouvoir. Comme le dit un principe confucéen, un principe de Sun Tzu, le ministre obéit à la vérité, il n'obéit pas au souverain. Et ça, c'est, je crois que c'était un principe fondamental dans la grande tradition lettrée chinoise.
Mais on n'en est plus à Confucius quand même, Simon Leys.
Non, je veux simplement dire qu'il existe en Chine, qu'il est erroné de croire qu'une certaine tradition libertaire, de liberté de pensée, de liberté critique, soit un produit proprement occidental et un produit du XVIIIe siècle occidental. C'est une notion beaucoup plus ancienne et c'est une très vieille notion chinoise.
Oui, je suis d'accord avec ce point, mais ce que je voulais souligner simplement, c'est que ce droit de critique, ce devoir de critique du lettré traditionnel s'exerce à l'intérieur d'un système de valeurs qui est commun aux gouvernants et aux gouvernés.
Si oui, Taraï.
Moi, je pense qu'il y a un amalgame, ou du moins un risque d'amalgame, et je voudrais revenir à deux exemples. Celui cité par Bianco, il faisait allusion à un texte publié dans le quotidien du peuple, je suppose que c'est celui de Li Chongquang, qui est enseignant dans un institut de musique. Ce texte, c'est une critique du système, mais ça, disons, c'est pour apporter de l'eau au moulin, quoi. C'est contre Jiang Qing et le groupe de Shanghai. Et tout à l'heure, Béja parlait de la légalité de la démocratie, en parlant du texte de Li Jiangtian. Et là, je voudrais soulever une question. C'est celle de la légalité socialiste. Je pense que chaque fois qu'on voit ces termes utilisés dans les textes officiels, moi je pense plutôt à la légalité de la bureaucratie. Je pense que la bureaucratie, dans le sens sociologique du terme, est une manifestation de la démocratie par rapport à la terreur, à l'arbitraire. Et c'est dans ce sens que je comprends la référence de Li Zhengtian à la légalité socialiste et à la démocratie. Je ne pense pas à une position anarchiste ou ultra-gauchiste sur la démocratie. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Li Zhengtian et je ne suis pas d'accord avec Mme Bergère. Parce que je pense que la misère politique ou la misère tout court ne peut pas constituer une condition idéale pour la manifestation d'opposition ou de courant nouveau, de courant politique nouveau. Et chaque fois qu'il y a eu des courants nouveaux, des gens qui ont pu s'exprimer et développer une critique des régimes, c'est des moments où le pays se portait plus ou moins bien. Il y avait peut-être une crise politique, mais les gens ne crevaient pas de faim. Et là, la question qui se pose, est-ce que les gouvernants actuels, pour résoudre les problèmes que vous aviez soulevés, Mme Bergère et M. Bianco, est-ce que les dirigeants vont encore recourir à la terreur? Est-ce que la terreur est indispensable pour résoudre les problèmes économiques de la Chine?
Après-midi de France Culture, il est 16h20. Notre invité du lundi est aujourd'hui Simon Leys, avec aussi Marie-Claire Bergère, Lucien Bianco, Siwi Taraï et Jean-Philippe Béja. Le thème de ce dossier, la Chine des années 1980. Et je vous rappelle nos téléphones 520 05 50 525 78 06. Il y a un point qu'il faudrait faire peut-être sur cette notion de faim, parce que les avis divergent complètement. Soit on dit depuis quelques années, au moins depuis 62-63, les Chinois mangent à leur faim, dans leur totalité pratiquement. Soit il y a des thèses absolument contraires qui disent, qui développent le fait qu'il y aurait eu famine et que le risque de faim n'est pas totalement aboli. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce point précis, Lucien Bianco?
Oui, évidemment, on a des informations, on a beaucoup d'informations partielles et on n'a pas de vue d'ensemble. Si vous voulez, en rentrant de Chine en 1974, quand j'ai passé une semaine à Bombay, dans la région de Bombay, j'ai été frappé par la misère apparemment beaucoup plus grande à Bombay, par les bidonvilles, par le nombre de mendiants squelettiques, etc. Mais en même temps, je me disais toujours, il est bien évident que si l'équivalent existe en Chine, je ne pourrais pas le voir, je ne verrais pas cette partie-là de la Chine. Alors, on en est réduit à interpréter, en ce qui concerne, par exemple, il faut revenir à l'agriculture et une fois de plus à la production des grains, on peut penser que depuis que, renonçant à privilégier l'industrie et l'industrie lourde, comme on l'a fait dans les années 50, on a enfin, après la famine, alors la famine effective des lendemains du Grand Bond, et celle-là indiscutable, bien qu'elle ait été longtemps niée, on a donné sa part à l'agriculture, et ça veut dire essentiellement essayer de commencer à la mécaniser, à favoriser dans l'industrie elle-même les secteurs qui travaillent pour l'agriculture, production de tracteurs, mécanisation de l'irrigation, production d'engrais chimiques, ce qu'un homme comme René Dumont, en particulier la production d'engrais chimiques, depuis longtemps recommandait comme étant la priorité des priorités, et ce qui n'avait pas du tout, il a fallu, disons, dans les 27 années du régime, c'est au cours des 13 ou 14 dernières années qu'on a consacrer des investissements importants au service de l'agriculture.
Oui, ce qu'on peut signaler, Lucien Bianco, à ce propos, oui. C'est que c'est justement Hua Guofeng, qui dirige maintenant la Chine, qui a publié un rapport, je crois, sur la mécanisation de l'agriculture et qui doit la prôner, donc, non?
Oui, non, mais je pense qu'il me semble que parmi ceux qui, il y a naturellement des tendances différentes, mais parmi ceux qui se sont mis d'accord pour se débarrasser de la veuve de Mao Zedong et de ses... enfin, de ceux qu'on présente comme ses acolytes, enfin, de la bande des quatre, eh bien, il y a accord, en gros, sur la priorité au développement économique et, à l'intérieur du développement économique, priorité au développement agricole. Et on constate que, enfin, une progression lente, pas du tout spectaculaire, mais avant, c'était stagnation, peut-être de 3% par an, c'est-à-dire de la production des grains alimentaires, c'est-à-dire pas tellement plus que la progression démographique, mais enfin, qui peut permettre un décollage. On constate aussi que les mauvaises années sont beaucoup moins mauvaises qu'elles étaient auparavant. C'est encore une agriculture qui n'est pas délivrée des fluctuations météorologiques, et cela commande encore tout, mais enfin, dans, même à l'époque du premier plan quinquennal et pendant le grand bond, un recul pourrait être un recul de 10-15 millions de tonnes sur un chiffre absolu qui était lui-même inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, sur 180 ou 185 millions de tonnes. Aujourd'hui, un recul semble être, en mauvaise année, comme en 72, en année de sécheresse, de 4 millions de tonnes ou 5. On commence à contrôler les fluctuations. Bon, est-ce que cela suffit? C'est extrêmement difficile, on ne sait pas. On connaît ni le chiffre exact de la production, ni le chiffre de la population chinoise, on ne le sait pas, ni l'efficacité de la planification des naissances, et comment l'accroissement naturel a diminué au cours de cette dernière décennie. Donc, il est impossible. En gros, il semble bien que depuis la famine des lendemains du Grand Bond, il n'y a plus l'équivalent. Mais dès que les contrôles politiques, simplement, se relâchent un peu, on a des témoignages qui nous parlent de mendiants, de mendiants plus ou moins brigands, prenant d'assaut les trains, comme pendant la Révolution culturelle. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la Révolution culturelle, il y a conséquences, répercussions dans le domaine économique des troubles politiques et donc moindre production. En gros, l'agriculture était beaucoup plus épargnée que l'industrie des conséquences dommageables de la révolution culturelle, mais c'est plutôt qu'avant, la police était assez efficace en année normale pour empêcher, disons, enfin je parle des mendiants de prendre d'assaut les trains ou des brigands du Hanrui, très célèbre, c'est une des provinces qui a le plus souffert au lendemain du Grand Bond et depuis, de se répandre dans beaucoup de régions et où on a des témoignages évidemment qualitatifs, subjectifs, partiels, peut-être quelquefois malveillants, de gens qui ne peuvent pas, enfin dans un restaurant modeste, dans une ville comme Refait, la capitale du Hanrui, ne peuvent pas finir de manger leur bol de soupe ou leur œuf en le recommandant plusieurs fois. Il y a toujours des mendiants autour qui sont là à essayer de les attraper. Bon, je crois quand même que, pardon, je dis juste un dernier mot, quoi, on est laissé avec des témoignages qualitatifs, quelquefois inquiétants, je vais en citer, mais il y en a d'autres, et en même temps, tout de même, et c'est quand même là-dessus que je voudrais insister, sur une impression un peu plus optimiste, à partir du moment où on a enfin décidé de faire à l'agriculture sa part, et là, commencer à décoller.
Jean-Philippe Béja, vous qui revenez de Chine, vous avez votre point de vue, même s'il est subjectif, vous avez des images qui vous restent. Vous n'étiez pas à Pékin, je le rappelle, vous étiez à Shenyang.
J'ai vu très peu de choses de la campagne chinoise et c'est l'un des problèmes pour tous les gens qui séjournent en Chine. On séjourne dans des villes, alors le plus souvent on séjourne à Pékin ou à Shanghai. On a eu la chance de séjourner à Shenyang, qui est une ville qui est presque originale, mais qui, je le rappelle, est une ville de 4,5 millions d'habitants, qui est donc très importante et qui est une capitale industrielle. Mais pour ce qui est de la campagne, ce que je peux dire, c'est que les conditions du Liaoning sont moins bonnes que celles de Pékin, ou que celle de Shanghai, ou que celle du sud.
Le Liaoning est au nord-est.
Au nord-est de la Chine. Le problème est un problème de qualité de céréales. C'est-à-dire que dans le Liaoning, qui est devenu depuis 1975 une province autosuffisante, on a peu de riz, on a beaucoup de kaoliang, de sorgho, et de blé et de maïs. Ce qui fait qu'effectivement la qualité nutritive est inférieure à celle du Guangdong, par exemple, où on mange beaucoup de riz. Et les Chinois sont les premiers à vous dire que les conditions du Liaoning ne sont pas très bonnes. Cependant, il est bien évident que dans tous les endroits où je suis allé, et j'ai visité quelques communes populaires dans le Liaoning, mais également dans toute la Chine, j'ai vu des gens qui mangeaient à leur faim.
Je voudrais ici citer Jean-Luc Domenac. C'est un texte qui date de décembre 1975 et qui est publié dans Regard froid sur la Chine et qui répond un peu d'une certaine manière à ce que vous venez de dire, Lucien Bianco. C'est sa conclusion. Hein. Il dit qu'il y a deux possibilités en Chine actuellement. C'est l'une, accorder la priorité au développement économique et à l'épanouissement national, ou poursuivre en premier lieu la révolutionnarisation des esprits et la mutation sociale.
Je suis pas d'accord parce que les gens croient que plus les gens sont misérables, plus ils sont révolutionnaires. Il y a un mythe qui veut que plus la Chine est fliquée, plus les ouvriers en Chine bossent pour du vent. En fait, c'est ça. Ils vivent de courant d'air. plus ils sont révolutionnaires, ce qu'il faut. C'est seulement l'expression d'une exploitation excessive, d'une répression inimaginable. Et je pense là, je ne suis pas du tout d'accord non plus avec ce qu'avait dit Marie-Claire Berger tout à l'heure. Moi, je suis pour le révisionnisme en Chine, dans la mesure que où le révisionnisme, c'est un peu moins de terreur et un peu plus de démocratie. C'est tout.
Je ne serais pas contre. Je dis simplement que ce serait jouir d'une chose qui est moins mauvaise que d'une autre, c'est tout.
Oui,
mais je ne suis pas contre ce que vous dites.
Je suis tout à fait d'accord.
D'autre part, quand vous dites plus les gens sont que vous réfutez l'idée que plus les gens sont misérables, plus ils sont révolutionnaires, je ne pense pas que ce soit exactement comme ça que ça se passe en Chine, ou du moins ce que nous avons pu en percevoir, c'est que nous avons vu que chaque fois qu'ils se consacraient à la révolution à temps complet, c'est-à-dire plus ils étaient révolutionnaires, que ce soit spontané ou inspiré, moins leur production avançait. C'est-à-dire que des grandes périodes de mobilisation révolutionnaire ont souvent coïncidé avec un déclin, un recul ou à la rigueur avec une stagnation de la production.
Oui, parce qu'en fait, assez souvent, ce qu'on appelle ici révolution, ou bien c'est une manifestation de la folie de certains dirigeants, ou bien c'est une lutte pour le pouvoir qui est masquée par des objectifs pseudo-révolutionnaires.
Oui, Lucien Bianco.
Oui, moi aussi, pour répondre aux deux perspectives ouvertes par Domnac. Bon, non seulement moi aussi je préfère le révisionnisme, mais je crois que l'autre n'est guère possible, qu'il n'y a pas tellement de possibilités comme Domnac les présentait. Moi je crois qu'il y en a, il y en a pratiquement une, c'est la moins mauvaise, et c'est là où je crois qu'on est finalement plus d'accord qu'on l'imaginait, mais les uns et les autres, c'est-à-dire que il faut bien mettre en garde, comme Marie-Claire Berger l'a fait, la joie peut être hâtive, les espoirs illusoires. C'est vraiment, elle avait raison me semble-t-il, de dire que ceux qui se révoltaient en 57 contre les bureaucrates seront encore, une fois de plus, dupés, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je crois que c'est le moindre mal. Les pires ont été éliminés, d'où la joie d'une grande majorité du peuple chinois aujourd'hui.
Jean-Philippe Béja.
À propos de la légalité, effectivement, je suis d'accord, la légalité, je crois que c'est une revendication minimum. Quant à dire, on préfère le révisionnisme, oui, on préfère le révisionnisme par rapport à quoi? C'est-à-dire, si le choix est entre la bande des quatre et la bande à Hua Guofeng, ou peut-être le nouveau gouvernement chinois, le grand président Hua Guofeng, on préfère peut-être le révisionnisme. Mais ce que je pense qui est intéressant dans l'affaire de Li Zhengtian, c'est que Bianco disait tout à l'heure, les choix qui se posent à la bureaucratie chinoise. Et je crois que c'est vrai, le choix maintenant, c'est le développement économique. Il n'y en a pas 36. Mais ce qui est important, c'est que justement, en parallèle à cela, il y ait un mouvement de contestation. Alors évidemment, on ne connaît pas son importance dans les masses, mais après tout, on ne sait rien des masses chinoises, on ne sait rien de leur pensée politique finalement, sauf une espèce d'agrément autour d'un régime, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas encore renversé. Et tant qu'ils ne l'auront pas renversé, on dira les masses chinoises se soumettent au régime chinois. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a justement des graines de contestation. Et alors là, je suis pas d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment très important. La revendication de démocratie, c'est beaucoup plus. La légalité, c'est le minimum. La démocratie, ça peut déjà être une sorte de maximum. Et ça peut entraîner un mouvement beaucoup plus vaste qui permettrait de limiter le pouvoir de la bureaucratie. Et je crois qu'il faut toujours être attentif aux petits signes. Finalement, en avril 1968, tout le monde pensait que la société française évoluerait sans aucun problème et sans aucun à-coup. Et puis, il y a eu mai 68. Alors, je pense qu'il faut quand même regarder un peu les gens comme Li Zhe et les autres issus de la révolution culturelle.
Lorsqu'on vous écoute, on a quand même le sentiment que le tableau est sombre malgré tout. Et je me demande s'il ne reste pas des acquis de la révolution culturelle. Je me demande si les acquis économiques qui sont ceux de la Chine aujourd'hui ne sont pas préservés et ne vont pas encore se renforcer. Et je me demande si une société nouvelle, quelle qu'elle soit, révolutionnaire ou non, ne va pas apparaître quand même en Chine, ni celle rêvée par les maophiles, ni celle rêvée par les maophobes, ou les ex-maophiles, les ex-maophobes. Marie-Claire Berger.
Qu'une société nouvelle se dégage progressivement en Chine, c'est vraisemblable. Au fur et à mesure que l'évolution économique progressera, au fur et à mesure qu'une partie de l'intelligentsia, comme l'évoquait Simitarai, trouvera sa voie dans des postes techniques ou des postes de compétences précises, se dégagera de plus en plus cette classe moyenne, experte, compétente, professionnelle, qui donnera sans doute au régime une solidité, une stabilité plus grande.
Mais c'est l'échec de la révolution.
C'est la fin d'un mythe.
Oui. Vous savez, là, Pardon, une révolution peut toujours faire que très très peu de ce qu'elle a ambitionné au début. Il est bien sûr qu'on ne peut pas considérer si une révolution avait échoué parce que finalement elle ne réalisait absolument pas du tout ce qu'elle prétendait réaliser, elles auraient toutes échoué, c'est bien évident. Or, il y a un autre point de vue, un autre lieu où on est bien obligé de dire que par-delà les mensonges, le despotisme du maoïsme, la révolution chinoise a réalisé en un quart de siècle des transformations considérables et urgentes. Donc, ça sera une autre société. Est-ce que c'est l'échec de la révolution? C'est effectivement, comme vient de le dire Civitarin, l'échec d'un mythe, ça c'est certain.
En outre, la révolution n'était pas seulement un projet d'émancipation et de libération sociale, c'était aussi un projet d'émancipation nationale, et de ce point de vue-là, elle a réussi, et c'était un projet de progrès économique, et de ce point de vue-là, on a de bonnes chances d'espérer qu'elle réussira.
Simon Leys.
Je crois que là, Che Guevara l'a peut-être dit de la façon la plus juste, une révolution échoue si elle ne change pas l'homme. Pour ce qui est de développer économiquement un pays, peut-être que le capitalisme ou le révisionnisme ou d'autres formes est plus efficace.
Mais tout de suite, justement, vous avez fait allusion au nationalisme. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que la Chine s'ouvre aussi et qu'elle découvre le monde extérieur pour, justement, qu'il y ait peut-être un réajustement par rapport à la réalité?
Là, je crois que ça a été un des problèmes, parce que si la Chine a fini par être partagée, bouffée par les puissances étrangères, c'est parce qu'à une époque, elle avait refusé de s'ouvrir aux savoirs techniques et autres qui venaient de l'Occident. Et c'est le problème qui est au centre, en fait, de tous les conflits sur la ligne économique. Est-ce qu'on va développer le pays en ayant recours à l'importation de techniques nouvelles, etc., ou alors on va faire une économie autarcique et on va bricoler un peu avec les moyens du bord? Ça, c'est un problème effectif. Mais il y a aussi un autre aspect du nationalisme qui est seulement la Chine qui devient une nation. Il n'est pas sûr qu'elle le soit déjà. C'est-à-dire que le régionalisme est assez puissant, et c'est depuis 1949 seulement qu'il y a un gouvernement central respecté plus ou moins par tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se décide actuellement à Pékin est appliqué nécessairement et de la manière dont le souhaitent les dirigeants du centre partout en Chine.
Lucien Bianco.
Oui, vous posez le problème du nationalisme et de l'ouverture à l'étranger, à l'extérieur. Je crois que tous étaient nationalistes, maoïstes et anti-maoïstes. Le nationalisme a été la composante centrale de la révolution chinoise dès l'origine. Je crois que les premiers qui se sont convertis au marxisme se sont convertis par nationalisme. Mais c'est donc déjà plus un problème de méthode, de voie, de mieux servir la patrie. Et on peut très bien soutenir, moi ce serait ma tendance, que les gens qui sont partisans de l'ouverture à l'étranger, des échanges économiques, de l'utilisation d'une technologie qui fait encore défaut à la Chine, sont des nationalistes plus conséquents que les chauvins, les xénophobes qui incarnent assez bien le courant maoïste. Et là, je voudrais faire aussi une autre parenthèse. Souvent, sur l'échiquier politique chinois en France, le courant maoïste a été représenté comme la gauche. C'est faire bon marché de tous ces courants qu'on peut appeler conservateurs, réactionnaires, obscurantistes, xénophobie, soit esprit de clocher. Je parlerais presque à la limite d'un poujadisme rounanais, d'une méfiance à l'égard de l'autre, à l'égard de la ville, de la volonté de maintenir pure non seulement la révolution mais et la patrie, mais également la campagne, le monde paysan, il y a une méfiance à l'égard des villes, donc naturellement Shanghai en est le symbole, et on ne le reproche pas seulement d'avoir été contaminé par l'impérialisme et d'en avoir gardé quelque chose après tout ce siècle impur, mais la ville, c'est les germes dissolvants, c'est vraiment ce qu'on appellerait chez nous l'esprit de clocher, ce nationalisme-là.
Le Hunan étant, je le précise, la province natale de Mao. Marie-Claire Bergère.
Oui, je crois que le problème de l'intégration de la Chine au courant de la civilisation mondiale et à la scène internationale est extrêmement important et qu'il devient maintenant de plus en plus important, à la fois d'un point de vue économique et aussi diplomatique. Mais il me semble bien qu'il faut le considérer dans une perspective un peu plus longue, une perspective historique. Vous dénoncez le rounanisme, le poujadisme rounanais. Oui, c'est vrai, mais après un demi-siècle ou plus de statut semi-colonial, la Chine ne pouvait pas envisager une ouverture à l'Occident et une intégration à la civilisation mondiale à partir de la situation de faiblesse où elle était. Il fallait absolument qu'elle se reconstitue en tant que nation et qu'elle retrouve une position de force pour pouvoir s'ouvrir au reste du pays, au reste du monde. Maintenant, où l'on peut penser qu'est plus ou moins acquise l'existence de la Chine en tant que nation forte, peut se poser, est venu le moment que l'on pose le problème de l'intégration de la Chine à la civilisation mondiale.
Au début de ce dossier, Simon Leys, on évoquait le retour en force et la réhabilitation possible de Deng Xiaoping. Est-ce que vous croyez que si Deng Xiaoping revient au pouvoir, nous vivrons des modifications dans l'ordre des choses entre la Chine et le monde ?
Je pense que oui, dans la mesure où le retour de Deng Xiaoping représente précisément un retour et un développement de la politique de Zhou Enlai. Un des grands points de conflit entre Zhou Enlai, la ligne de Zhou Enlai, qui est aussi celle de Deng Xiaoping, et la ligne des radicaux maoïstes, était justement cette question de faut-il ouvrir ou fermer la Chine. Ici, le groupe radical maoïste se montrait absolument l'héritier des cercles réactionnaires du vieil empire mandchou, de la cour mandchou à la fin de l'empire, en ce sens que exactement comme autrefois les réactionnaires préconisaient de préserver l'essence nationale à tout prix et donc de se protéger de toute contamination avec le monde extérieur, de nier le monde extérieur, de même les maoïstes ont peur aussi de la contamination, de tout ce qui pourrait menacer la pureté de la doctrine maoïste. Il faut maintenir cette doctrine dans sa pureté native. Il faut éviter tout ce qui pourrait l'adultérer ou la contaminer, et entre autres les contacts avec l'extérieur, les contacts, l'importation de la technologie étrangère, etc. Leur foi est au contraire que l'idéologie seule peut être un substitut valable pour la technologie, tandis que le groupe Zhou Enlai, Deng Xiaoping, pense à l'inverse qu'il est essentiel pour le développement de la Chine que la Chine s'ouvre, que la Chine s'adapte au monde extérieur, que la Chine emprunte les armes du monde extérieur pour confronter à égalité celui-ci.
Finalement, vous êtes optimiste aujourd'hui ?
Ça dépend de quel point de vue on se place. Il est évident de toute manière que la chute d'un groupe xénophobe, réactionnaire et obscurantiste est une chose qui doit être une occasion pour nous de se réjouir. Ceci dit, la perspective de voir la Chine gouvernée par une élite bureaucratique et technocratique n'est pas une perspective très enthousiasmante non plus. Le précédent soviétique est là pour nous éclairer sur les limites d'une telle évolution. Ceci dit, cette évolution fournira quand même un contexte économique, politique et social dans lequel pourra plus facilement se développer une contestation profonde et authentique parmi la jeunesse qui de plus en plus pense et souhaite reprendre sa destinée en main et ne pas abandonner son sort aux mains d'une caste bureaucratique.